Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. 2015, une année cruciale pour la diplomatie française, soucieuse d'imprimer un coup d'accélérateur aux négociations visant à enrayer le réchauffement climatique. Du 30 novembre au 11 décembre, Paris accueillera la 21e conférence de l'ONU sur le climat, dite aussi COP21. Le but de ce sommet est d'aboutir à un accord liant tous les pays du monde afin d'empêcher que la planète ne se réchauffe au-delà de 2 degrés Celsius, un niveau au-dessus duquel les chercheurs s'accordent à dire que l'humanité s'expose à des risques d'emballement non maîtrisables du climat. L'objectif est-il réaliste ? En 2009, un sommet équivalent à Copenhague avait échoué, bloqué par la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Ces deux États ont depuis passé un accord sur la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Cela renforce-t-il les chances d'un accord universel à Paris ? Ou bien Pékin et Washington ont-ils un agenda en dehors du cadre onusien ? Plus globalement, la pierre d'achoppement à toute entente reste et demeure financière, car pour inciter les pays les moins développés à signer un accord, les pays riches, qui sont les premiers responsables du réchauffement, devront se montrer crédibles dans leurs promesses sonnantes et trébuchantes. En 2009, ils se sont engagés à mobiliser des fonds publics et privés pour aider les nations vulnérables à faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Or, ce fonds dit « fonds vert pour le climat », qui doit atteindre 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, en totalise aujourd'hui 10 fois moins. Regard sur la diplomatie du climat à 6 mois de la conférence de Paris. Nos invités, François Jemaine, chercheur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po, à l'Université de Liège en Belgique et chercheur invité à Princeton aux États-Unis, auteur de Géopolitique du changement climatique aux éditions Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane Aycut, politiste et sociologue des sciences, chercheur à l'Université Paris-Est et auteur avec Ami Dahan de « Gouverner le climat, 20 ans de négociations climatiques » aux presses de Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Et Bastien Alex, chercheur à l'IRIS, directeur de l'Observatoire géopolitique de la durabilité. Bonjour.
Bonjour.
Le changement climatique, il est devenu un sujet de politique internationale dont les enjeux dépassent largement la seule question écologique pour englober l'ensemble des équilibres mondiaux et notamment des rapports nord-sud, voire sud-sud. Quelles sont aujourd'hui les questions qui se posent ? Où en est-on du débat ? Qu'espérer de la COP21 dont je rappelle au passage qu'elle rassemble pas moins de 195 pays. C'est énorme, François Jemaine.
Qu'espérer de la COP21 ? Je pense que c'est un moment relativement unique où l'humanité aura la possibilité de choisir si elle veut soit engager une action résolue et déterminée contre le changement climatique ou si elle veut plonger vers l'abîme. Le choix est aussi simple que cela et c'est sans doute un moment que les historiens décriront dans 20 ans ou dans 50 ans comme ce moment où on était face à un choix qui n'est pas facile, dont le choix peut nous sembler évident, mais qui impose et entraîne avec lui toute une série de contraintes et de modifications tout à fait profondes de nos modes de production et de consommation.
Bastien Alex ?
Je partage cet avis et évidemment l'ampleur de la tâche est énorme et effectivement la communauté internationale ne s'est pas toujours illustrée par sa volonté de mettre à mal certains de ces enjeux. Il faut une mobilisation globale, on sait que les négociations sont très compliquées puisque toute volonté de régulation au niveau international se heurte aux enjeux de souveraineté, notamment aux questions économiques comme je le disais, les questions de modèle de consommation, de production et d'exploitation des ressources qui sont à la source du problème. Tout le monde est d'accord pour l'affirmer, le diagnostic ne fait pas débat. Malheureusement, s'il y a un consensus sur le diagnostic, il n'y a pas de consensus sur la méthode à adopter pour lutter contre le problème.
Alors, Stéphane Aycut, depuis 20 ans que le problème climatique s'est inscrit à l'agenda mondial et qu'un processus de gouvernance s'est mis en place pour le traiter, les concentrations de gaz à effet de serre n'en ont pas moins atteint un niveau record en 2013, c'était il y a 2 ans. Comment apprécier ce record ? Est-ce qu'on peut parler d'échec ? Est-ce la faute d'une gouvernance devenue obèse et qui révèle finalement toutes ses lenteurs face à une réalité extérieure faite d'accélération ?
Je pense qu'il faut rappeler quand même que le changement climatique est un problème d'une ampleur inédite. Les internationalistes, donc ceux qui étudient au fait les régimes internationaux, disent une chose, et je pense que c'est utile de le rappeler, c'est d'abord l'existence même de cette gouvernance-là, donc de ces négociations climatiques tous les ans, etc., qui est en soi une chose très importante et surprenante, puisque les États négocient autour d'une table pour le bien commun de l'humanité. Et c'est en soi quelque chose de bien. Maintenant, quand on regarde où en sont les négociations aujourd'hui, vous avez rappelé l'objectif des 2 degrés, par exemple. Donc, ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Quand on regarde aujourd'hui, nous sommes déjà à 0,8 degrés de réchauffement. Donc, la Terre s'est déjà réchauffée. Nous sommes à plus de 60% d'émissions de plus qu'en 1990, quand les négociations ont commencé. Et ces émissions ne cessent d'augmenter. Donc, aujourd'hui, et je partage l'avis que pour ça, Paris est crucial, il faut absolument arriver à un tournant dans les émissions mondiales, dans les négociations internationales. Et nous sommes très loin du compte pour l'instant.
Alors, est-ce à dire, si on est loin du compte, que finalement, cet objectif de 2% de réchauffement climatique, ce qui signifie une réduction chaque année de presque 3,2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, je parle sous votre contrôle aux uns et aux autres.
C'est 2 degrés, pas 2%.
2 degrés, pardon. Est-ce que ça n'est pas finalement irréaliste, François Jamène?
Malheureusement, il faut bien reconnaître que de plus en plus de chercheurs le pensent et sont d'avis qu'aujourd'hui, au train où vont nos émissions et vu notre incapacité à les réduire significativement pour le moment, on est plutôt parti sur un scénario de réchauffement de l'ordre de 4 degrés, voire même de 6 degrés selon les estimations les plus pessimistes, d'ici la fin du siècle. Il est sûr que de plus en plus, l'objectif de 2 degrés qui est pourtant un objectif qui avait été choisi et décidé lors de la conférence de Copenhague en 2009, apparaît comme un objectif, je ne vais pas dire fantaisiste, mais comme un objectif qui devient de plus en plus motivationnel, une sorte de méthode couée qu'on maintient quand même pour essayer d'avoir un cap, mais où chacun sait bien que aujourd'hui les chances d'y arriver sont devenues infimes, malheureusement.
Alors, de quoi va-t-il être réellement question au cours de cette conférence, Bastien Alex?
L'idée, pour poursuivre l'explication de François Jamène, c'est effectivement d'arriver à s'entendre sur la répartition de l'effort à faire en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un objectif qui est, je dirais presque fantaisiste, hein, pour aller encore plus loin, aujourd'hui des 2 degrés, beaucoup de gens s'accordent à le dire, moi j'en fais partie en tout cas. Le principal problème que nous avons, c'est peut-être la concession que nous avons faite au départ sur la responsabilité commune mais différenciée. C'est-à-dire que les pays historiquement responsable du réchauffement climatique avait apporté en premier lieu l'effort de réduction, c'est-à-dire les pays développés, et la croissance des émergents n'avait peut-être pas été suffisamment anticipée, ou en tout cas c'est quelque chose qui avait été mis sous le tapis. Et aujourd'hui on voit bien que la croissance des émissions, elle se retrouve chez les grands émergents que sont l'Inde, la Chine, l'Indonésie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Et qu'aujourd'hui ces pays-là ne sont pas véritablement prêts à faire des concessions tant qu'il n'y aura pas de garantie d'un effort conséquent de la part des États-Unis par exemple, puisqu'aucun accord véritablement efficace ne peut se faire sans les États-Unis. Et si vous voulez, aujourd'hui, voilà, il y a cette difficulté à obtenir des garanties, notamment vis-à-vis du financement, ce que vous avez rappelé. Il est vrai que pour l'Inde ou la Chine, même si elles développent des politiques au niveau national pour réduire leurs émissions, notamment en développant les énergies renouvelables pour ce qui concerne la Chine, le Premier ministre indien l'avait rappelé juste avant la visite de François Hollande, enfin sa visite, pardon, en France, l'Inde n'est pas prête à abandonner sa génération d'électricité à partir du charbon parce qu'elle dispose de ressources charbonnières importantes et qu'elle ne conçoit pas de ne pas les utiliser. Et effectivement, ça pose problème, mais ce ne sont pas les minces garanties que l'on profère en ce qui concerne l'abondement du fonds vert qui vont les faire changer d'avis.
Alors, on reviendra dans le détail sur les positions de chacun des grands pays. Je me tourne vers vous, Stéphane Aycute. Ce que vient de dire à l'instant Bastien Alex, c'est exactement ce que vous soulignez dans votre ouvrage « Gouverner le climat ». C'est ce schisme, cette dichotomie entre la réalité sur le terrain avec ses accélérations, l'émergence d'un certain nombre de pays, et puis ces conférences sur le climat qui, bon an, mal an, avancent, mais les rythmes ne sont pas les mêmes.
Absolument, les rythmes ne sont pas les mêmes, et je pense, quand on parle de l'objectif des 2 degrés, qui est un bon exemple pour illustrer de quoi il s'agit, je ne sais pas si la question centrale, c'est est-ce qu'il est encore atteignable, est-ce qu'il n'est pas atteignable. La question centrale pour moi, c'est qu'est-ce que veut dire cet objectif des 2 degrés? On s'est accordé sur les 2 degrés, on s'est accordé sur des objectifs à très long terme de réduction des émissions, et ça montre très bien comment fonctionnent ces négociations. On se met d'accord sur des chiffres de réduction, sur des objectifs lointains, mais on ne se met pas d'accord sur ce que ça veut dire réellement. Et donc, quand on parle des 2 degrés, c'est un chiffre abstrait. Quand on le traduit en des termes tangibles, on se rend compte que pour rester sous les 2 degrés, il faudrait qu'un tiers des réserves aujourd'hui prouvées de ressources fossiles, surtout charbon, mais aussi pétrole et gaz, devront rester sous la terre. Donc, ne peuvent pas être exploitées. On voit très bien dans un ensemble de pays, je peux citer la décision des États-Unis d'autoriser la prospection pétrolière dans les eaux arctiques. Donc, on voit au niveau des États, on voit au niveau international, tous les jours, des décisions qui vont à l'encontre de cet objectif des 2 degrés, qui vont à l'encontre de ce qu'on décide dans les négociations internationales. Et tant que c'est le cas, il y aura ce schisme de réalité. Donc, ce qu'il faut changer dans les négociations aujourd'hui, je pense, c'est de commencer à vraiment traduire, au fait, ces objectifs lointains, abstraits, dans des politiques concrètes, y compris en termes de non-exploitation, par exemple, des ressources fossiles.
Vous écoutez RFI.
Alors, la question énergétique, elle est extrêmement importante, voire essentielle. François Jemène, elle n'est pas la seule.
Elle n'est pas la seule, mais c'est quand même celle qui gouverne, malgré tout, la question des émissions. Alors, au-delà, effectivement, du volet sur les émissions qui va être traité, bien sûr, à la conférence de Paris, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire les moyens pour les pays et les populations touchées par les impacts du changement climatique, de s'adapter à ces changements. Et donc, c'est une revendication tout à fait cruciale, notamment des pays en développement, c'est de recevoir une aide financière suffisante que pour les aider à mettre en place ces politiques d'adaptation. Et la question est liée à la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'il faut un accord global, c'est un des leitmotifs de la conférence de Paris, où on ne veut plus aujourd'hui d'un accord qui n'impliquerait que les seuls pays industrialisés, comme ça avait été le cas avec le protocole de Kyoto. Mais les pays en développement et les pays émergents disent « Attention, si vous voulez que nous prenions également des engagements concernant la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, il faut en contrepartie, d'une part, que vous preniez des engagements plus importants encore que les nôtres, mais surtout que vous nous donniez de l'argent pour nous adapter aux impacts du changement climatique dont nous sommes les victimes. » Et donc, les deux aspects sont liés les uns aux autres. Et on sait aujourd'hui qu'une action résolue de réduction des émissions passe aussi par une réduction des émissions en Chine, en Inde, au Brésil, en Afrique du Sud et aussi demain dans les pays en développement.
Alors, je voudrais qu'on s'arrête et qu'on approfondisse un tout petit peu cette double notion que vous évoquiez à l'instant, François Jemène. L'adaptation d'un côté et l'atténuation de l'autre. Atténuation, c'est-à-dire finalement diminution des gaz à effet de serre, etc. Est-ce que finalement l'un et l'autre ne sont pas contre-productifs ? Je ne sais pas qui veut répondre sur cette question, François Jemène.
On l'a longtemps cru, en tout cas au début des négociations internationales, l'adaptation était une sorte de tabou politique. C'est-à-dire, ne dites surtout pas aux États qu'il va être possible de s'adapter, parce qu'ils vont utiliser ça comme une excuse pour ne pas réduire leurs émissions ou pour ralentir le rythme de réduction de leurs émissions. Et puis on s'est aperçu que même malgré cela, les réductions d'émissions étaient quasiment inexistantes et que à côté, les impacts du changement climatique commençaient à se faire sentir, que des pays, des populations souffraient et que donc il y avait urgence à développer des mécanismes d'adaptation. Et donc quelque part, le fait qu'on ait parlé, qu'on ait accepté de parler de l'adaptation dans les négociations internationales est aussi un aveu d'échec de notre incapacité à réduire suffisamment nos émissions que pour éviter ces impacts. Mais c'est aussi une nécessité. Et donc on a dit, ce n'est pas l'atténuation ou l'adaptation, il faut faire les deux. C'est l'atténuation et l'adaptation. Et aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, on ne parvient à faire suffisamment ni l'un ni l'autre. C'est le drame des négociations internationales. Et qu'on commence à introduire un troisième volet, qu'on appelle le volet pertes et dommages, c'est-à-dire la compensation financière pour les dommages et les pertes qui ne pourront pas être, je dirais, diminuées, réduites par l'adaptation. Donc on est aujourd'hui en train de dire l'adaptation ne pourra pas tout, on ne pourra pas s'adapter suffisamment, et donc il faut trouver une compensation pour les pertes et les dommages. La question c'est qu'est-ce qui va se passer quand on se rendra compte qu'on ne peut pas non plus compenser suffisamment pour les pertes et dommages? Quel sera le nouveau volet qu'on inventera encore, j'imagine, des mémoriaux pour les territoires et les populations perdues?
Bastien Alex souriait. Finalement, la question qui se pose, est-ce que les conférences, comme celle à venir de Paris et celles qui l'ont précédée, sont des cadres adaptés à la problématique, Bastien Alex?
C'est moi, en tout cas, une question que je me pose aujourd'hui, puisqu'effectivement, je crois que tous les éléments que nous convoquons depuis tout à l'heure montrent bien qu'il y a quand même des blocages qui semblent pour l'heure indépassables. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura un accord à la COP21? Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y en aura vraisemblablement un. Est-ce qu'il sera pertinent et efficace au regard de la problématique qui est posée ? C'est autre chose. Et effectivement, là, l'introduction de l'agenda des solutions, par exemple, qui donc implique les autres acteurs non étatiques dans les négociations, est intéressante puisque c'est un effort qui doit être porté au niveau national, au niveau local, au niveau régional, par des politiques qui intègrent cette réalité du changement climatique. Aujourd'hui, la COP 21, vous parliez d'une espèce de processus devenu obèse où il y a une multiplication des délégations, un coût très élevé pour des résultats qui sont souvent très décevants. La vraie question, c'est est-ce que nous sommes capables d'organiser le traitement du problème changement climatique à l'échelon international à travers une gouvernance ? Je pense que nous sommes quand même dans des difficultés qui m'apparaissent pour l'heure indépassables.
Stéphane Aycute.
Oui, absolument. Il faut souligner, je crois, une particularité de la façon comment on a traité le changement climatique. On a parlé plusieurs fois dans cette émission de l'obésité du régime. Donc l'obésité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a, d'une certaine façon, voulu traiter dans les négociations climatiques de plus en plus de problèmes de développement, d'équité, les forêts, etc. Ça tient d'une part, bien évidemment, à la complexité même du problème climatique. Le problème climatique touche à tous ces aspects-là, touche à toutes ces questions. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait dire, c'est normal qu'on traite toutes ces questions dans les négociations. Mais on voit très bien que pour pouvoir traiter un problème, que ça soit au niveau national, au niveau international, etc., il faut le rendre gérable. Et ce que nous essayons de montrer donc dans l'ouvrage, et je pense que c'est l'agenda des solutions est peut-être un premier pas vers autre chose, même si ça reste très modeste, mais c'est que en réduisant le problème à la fois dans les négociations internationales à la question des émissions, à la question finalement de gérer de proposer des solutions en fait en fin de tuyau, c'est ce qu'on appelle en fin de tuyau en sciences politiques. Donc en gérant les émissions, on a réduit faussement le problème, en chargeant la barque avec d'autres problèmes, on a rendu ingouvernable les négociations internationales. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est à la fois prendre en compte ces autres problèmes, ces autres arènes où finalement on prend des décisions qui vont à l'encontre du changement climatique. Ça veut dire, on pourrait y revenir, ça veut dire par exemple le commerce international. J'ai parlé de l'extraction des ressources fossiles tout à l'heure. Donc, toutes ces questions-là, où on ne parle pas de climat.
C'est ce que vous évoquez dans l'ouvrage, c'est l'enclavement des problèmes climatiques, c'est-à-dire que ce problème climatique qui concerne la planète entière, toutes les régions, finalement, est compartimenté et totalement exclu des autres grandes conférences. Alors on pense au G20, on pense au G8, François Jomène.
Il est exclu des autres grands processus de négociation, je pense largement parce qu'on s'imagine que le climat reste un problème d'environnement et doit donc être résolu par un traité, par un accord environnemental. Et je pense qu'il est tout à fait important de parvenir à reconnecter la question du climat des problèmes fondamentaux, y compris des problèmes d'inégalité, il faut le dire, parce qu'au départ, le problème du changement climatique, c'est un problème distributionnel, c'est-à-dire un problème de répartition des responsabilités, de répartition des impacts, de répartition des émissions. Et tant qu'on continuera à traiter le climat comme un problème environnemental, je pense qu'on ne parviendra pas à résoudre cette question. Et une autre déconnexion qui est très importante et à mon avis très dommageable, c'est la déconnexion totale des négociations par rapport à la démocratie et par rapport aux réalités concrètes du climat et aussi par rapport aux réalités des opinions publiques. Voilà une négociation qui est tout à fait cruciale pour le futur de l'humanité et à laquelle l'humanité n'y comprend plus rien. Et donc il y a un véritable déficit démocratique, je pense, au sein des négociations, y compris parce que les seuls acteurs de ces négociations qui sont habilités à décider, ce sont les représentants des États. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure c'est encore un gouvernement qui est le dépositaire le plus légitime de l'autorité et de la représentation sur cette question climatique. Est-ce que beaucoup des Français qui nous écoutent se retrouvent dans la position de leur gouvernement ? Je pense qu'en réalité, quand on questionne les gens sur la question du changement climatique, beaucoup ne se retrouvent pas dans la position de leur gouvernement. Je vis aux États-Unis pour le moment. Beaucoup d'Américains se retrouvent davantage dans la position du gouvernement du Bangladesh que dans la position du gouvernement américain aux négociations. Donc je pense qu'il y a un véritable déficit démocratique à combler.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, François Jomène, Stéphane Aycute et Bastien Alex dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la conférence de l'ONU sur le climat qui se tiendra à Paris à la fin de cette année. Nous retrouvons nos invités, François Gemène, chercheur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po, à l'Université de Liège en Belgique, et chercheur invité à Princeton aux États-Unis, auteur de Géopolitique du changement climatique aux éditions Armand Collin. Stéphane Aïkout, politiste et sociologue des sciences, chercheur à l'Université Paris-Est, et co-auteur avec Ami Dahan de Gouverner le climat, 20 ans de négociations climatiques aux presses de Sciences Po. Et Bastien Alex, chercheur à l'IRIS, directeur de l'Observatoire géopolitique de la durabilité. François Gemène, je reviens sur ce que vous disiez en fin de première partie, ce déficit démocratique qui a cours dans le cadre de ces négociations sur le climat. On a évoqué l'idée qu'effectivement, la construction, l'un des problèmes de la construction de la question climatique était que c'est un problème qui est totalement enclavé et séparé du reste des autres négociations. Finalement, ces conférences sont-elles adaptées à la problématique du climat ?
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le modèle de négociation qui est utilisé est un peu archaïque et n'est plus adapté à traiter un problème aussi complexe et diversifié que la question du climat. Il est archaïque parce qu'il est déconnecté des autres sphères de négociation, archaïque parce qu'il est déconnecté du public, des réalités, des impacts du changement climatique, archaïque parce qu'il ne représente que les États, et on sait que les gouvernements ont une capacité limitée à contrôler les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites sur leur territoire. 70% des émissions sont produites dans les villes, par exemple. Et donc,
il faudrait des représentants des villes.
Je pense qu'il faudrait des représentants des industries, de la société civile. Et on a finalement l'impression d'une négociation qui est dans une bulle, déconnectée des réalités, des impacts du changement climatique, et qui est aussi, finalement, une négociation qui devient très abstraite, où on négocie sur des chiffres, sans plus du tout se rendre compte de la réalité de la violence du changement climatique pour toutes les populations qui l'affectent.
Vous entendez par là que finalement toute la notion humaine est là aussi exclue des mots prononcés dans ce cadre
D'une certaine manière, oui. Et j'ai souvenir de la conférence de Copenhague en 2009 où pendant les derniers jours de la conférence, on avait fait sortir les représentants de la société civile, on les avait exclus du centre de négociation pour des raisons de capacité et de sécurité. Et il y avait cette impression irréelle de négociation dans l'éther sur des abstractions déconnectées de la réalité. Et au fond, le problème aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que le vrai sujet des négociations sur le climat, ce n'est plus le climat, mais ce sont les négociations elles-mêmes. Et on a l'impression de négociations qui se regardent le nombril, où le sujet de chaque round de négociation, c'est de préparer la conférence suivante. Ça doit cesser un moment.
Vous partagez, Bastien Alex, Stéphane Aïkout, ce qui vient d'être dit.
Oui, moi je partage tout à fait ce point de vue. La difficulté d'organisation au niveau international du traitement de ce problème, elle est réelle. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, effectivement, si ce modèle-là est archaïque et n'est plus adapté à l'enjeu, est-ce que ça veut dire qu'il faut intégrer les enjeux climatiques aux autres cénacles de discussion internationaux, ou est-ce que ça veut dire qu'il faut intégrer les autres questions économiques, énergétiques, à la Convention climat? Ça aussi, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse pour l'instant. Et la déconnexion aussi, pour revenir sur le déficit démocratique. Il est vrai que c'est très compliqué. Il y a un décalage parfois entre les opinions publiques et la position qui est portée par les gouvernements. En même temps, il y a aussi une réticence des populations à faire des efforts en vue de lutter contre un problème dont ils ne perçoivent pas forcément les effets. C'est toute l'opposition que les gens peuvent avoir vis-à-vis des installations, par exemple d'éoliennes en face de chez eux, etc. Il y a un vrai problème aussi de confrontation avec la réalité. On a besoin que les dirigeants politiques s'imprègnent de ce sujet. Il faudrait en fait que l'enjeu climat devienne un enjeu des élections. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Personne ne vote pour un candidat parce qu'il défend une position au changement climatique qui n'est pas un problème environnemental, je suis bien d'accord, c'est un problème global, mais il faut que cela soit intégré au programme des candidats et que ça devienne un élément moteur du vote. Mais ce n'est pas le cas.
Stéphane Aïkout, rapidement sur cette question.
Un mot quand même pour défendre les... puisque je vais prendre ce rôle dans l'émission, pour défendre les négociations onusiennes, il faut dire qu'il y a tout un ensemble de négociations parallèles qui se sont montées. Les négociations onusiennes, aussi archaïques qu'elles soient, reste la seule enceinte où, par exemple, les pays en développement, les petits pays insulaires, tout un ensemble d'acteurs ont une voix où ils peuvent porter un agenda, où ils peuvent faire entendre leur position. Donc, je défendrai sur ce point-là, malgré tous les défauts, le processus onusien. Il y a une proposition peut-être modeste pour rendre les choses concrètes. Je parlais tout à l'heure du commerce international. Les émissions d'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, est le résultat d'un processus de mondialisation qui s'est mise en place dans les années 80, 70, 80, 90, donc au sein des négociations qui ont mené donc à la création de l'OMC en 1995. Et donc, quand on négocie aujourd'hui, je pense au traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, il est absolument fondamental que la question climatique joue un rôle pour que la prochaine, le prochain tour de mondialisation se déroule d'une façon qui soit compatible avec la contrainte climatique. C'est ça ce que je veux dire quand on parle ici d'un problème qui est enclavé, c'est que dans des arènes où des décisions absolument cruciales pour le climat sont prises, on ne parle pas de climat. Il faudrait inclure le climat dans ces négociations-là. Il faut qu'il joue un rôle important.
Alors, pour en retourner à la question de cette conférence donc à Paris, précédée d'autres, ce que j'aimerais, c'est que on analyse un tout petit peu la façon dont cette question du climat est gérée par les différents pays. L'Union européenne, elle a eu un rôle de leader depuis le début des négociations. On voit aujourd'hui la Chine et les États-Unis apparaître comme finalement les deux acteurs centraux des négociations, alors que l'Europe est reléguée à une politique, on va dire, plus suiveuse que celle à laquelle elle a été habituée jusqu'à présent. François Gemène, qu'est-ce que l'on peut dire du rôle de la Chine et des États-Unis, de cet accord entre Pékin et Washington? Je le disais en introduction, est-ce que finalement ces deux pays ont un agenda qui les fait sortir du contexte onusien?
Je dirais que la très grande perversité de ces négociations, c'est que plus vous émettez des gaz à effet de serre, plus vous êtes important dans la négociation. Et c'est presque comme s'il y avait un incitant à polluer pour avoir le plus de leviers possible dans la négociation. Et c'est quelque part le drame de l'Union européenne qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'elle a essayé de montrer la voie par l'exemple en s'engageant sur un programme de réduction de ses émissions, et que dès l'instant où l'Union européenne s'était engagée dans une réduction assez importante de ses émissions de gaz à effet de serre, elle cessait d'être un acteur important dans les négociations, puisque la réduction de ses émissions ne dépendait plus de l'accord international. Alors là-dedans, évidemment, les deux acteurs majeurs pour le moment, c'est bien entendu les États-Unis et la Chine, qui sont les deux principaux pollueurs, qui ont donc en novembre dernier signé une déclaration conjointe, ce n'est pas un accord de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Je dirais qu'il y a deux façons de lire cet accord. Une façon positive et optimiste de lire cet accord, c'est de dire la Chine et les États-Unis prennent leurs responsabilités et disent qu'ils sont prêts à agir même en l'absence d'un accord international, qu'ils ne vont pas attendre un accord international pour agir et ne vont pas faire dépendre leurs actions de cet accord. La lecture pessimiste, c'est de dire nous annonçons nos engagements avant la négociation, ce qui est une façon de préempter sur le résultat de la négociation, et nous disons très clairement un an avant que nous n'irons pas plus loin que cet engagement que nous avons pris à deux.
C'était un signal.
C'est un signal qui peut être lu de façon optimiste ou pessimiste.
Alors, pour ce qui est des émissions, puisque vous parliez de la Chine et des États-Unis comme les plus grands pollueurs, quelques chiffres peut-être. Je parle là aussi sous votre contrôle. Les États-Unis, c'est 17% des émissions mondiales. La Chine, moi j'avais 25%, mais je crois que c'est même un chiffre dépassé, ou en tout cas c'est celui-là. Et pour l'Union européenne, 11%.
Si on prend les émissions par pays, si vous comptez les émissions par habitant, ça vous avez une réalité très différente avec les Qataris suivis des Saoudiens et des Koweïtiens qui sont les plus gros émetteurs.
Et le Luxembourg qui est aussi... Et
le Luxembourg qui est aussi un gros émetteur, la Suisse, les pays les plus riches, le Liechtenstein.
Alors, quelques mots sur ces petits, enfin les petits États insulaires, petits mais pas si petits que ça, dans le poids qu'ils ont aujourd'hui dans la négociation, dans la conférence. Ils ont formé une alliance, ces petits États insulaires, en 1990. Quelles sont leurs attentes, leurs revendications précises dans le cadre de ces négociations? Stéphane, écoute.
Justement, c'est une des particularités de la négociation onusienne. Dans les négociations onusiennes, un petit pays comme le Tuvalu a une voix, tout comme les États-Unis. C'est un principe onusien, un pays, une voix. Et c'est comme ça que fonctionnent les négociations, même si on imagine bien que le poids de cette voix est différencié selon le poids économique et politique des pays. Mais ce qui s'est passé au cours de ces 20 ans de négociations, c'est que cette alliance-là, des petits pays insulaires, s'est imposée comme la voix morale du processus, comme les pays finalement qui pouvaient prendre la parole dans l'Assemblée pour dire aux États-Unis, à la Chine, nous sommes les premiers qui vont subir les effets du changement climatique. Si on regarde les projections climatique. Nous allons disparaître. Et donc, le rôle de ces pays a été constamment d'inciter les autres pays de revenir à des engagements plus ambitieux. Donc, ça a été très important. On voit aujourd'hui que même ça n'a pas suffi. Et les petits pays insulaires, d'ailleurs, leur position aujourd'hui dans les négociations, ce n'est plus 2 degrés de réchauffement, c'est 1,5 degré de réchauffement. Donc, ils poussent vers un accord encore plus ambitieux.
Alors, on va parler des questions de sécurité, mais finalement, pour essayer aussi de comprendre et d'aborder une autre catégorie de pays, je pense aux pays producteurs de pétrole. Eux, ils craignent évidemment la réduction de leurs ressources financières. Est-ce qu'il n'est pas finalement naïf de penser que la communauté internationale aurait un intérêt commun à combattre le changement climatique ? Bastien Alex.
Question compliquée, mais effectivement, vous faites bien de parler de certains pays, on les évoquait tout à l'heure, mais le cas de l'Arabie Saoudite, qui demande à être indemnisé pour ne pas exploiter ses ressources d'hydrocarbures, ce qui va quand même à l'encontre de la mécanique des négociations. Après, le problème que l'on a, c'est que on est tous d'accord pour dire que c'est un défi global, donc qui nécessite une réponse globale, mais en même temps, la réalité, enfin le principe de réalité, nous impose de constater que certains États n'ont pas les mêmes intérêts du fait de leur structure économique, de leur poids démographique, de leur situation sur, on va dire, la courbe de la croissance, et la position des pays de la OSIS, de l'Alliance des petits États insulaires, malheureusement, est isolée, elle n'est pas reprise par l'Arabie Saoudite, par l'Inde, ou par le Brésil, ou les États-Unis. C'est une réalité. Ces États-là n'ont pas les mêmes intérêts. Ils sont, exposés différemment aux conséquences du réchauffement climatique, ce qui joue aussi beaucoup sur leur position.
François Gemène.
Et je pense qu'il est indéniable, évidemment, tout le monde en conviendra, de reconnaître que l'humanité a un intérêt commun global à lutter contre le changement climatique. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que dans l'immédiat, quand on regarde ce qu'il faut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, là on se rend compte qu'il va y avoir des gagnants et des perdants. Et donc on vit pour le moment dans une illusion de gouvernance globale, de transition énergétique, d'agenda positif, qui est une sorte de voyage d'Alice au pays des merveilles. On s'imagine que tout va se faire naturellement, et où tout le monde va être gagnant-gagnant dans un monde plus prospère, plus juste, plus démocratique et plus heureux. La réalité crue de cette négociation, c'est qu'elle est violente, c'est qu'il va y avoir des gagnants et des perdants, et que puisque le changement climatique est un problème de distribution, la résolution du problème implique de redistribuer les cartes, et donc ça implique qu'il va y avoir des perdants à court terme, ça implique qu'il va y avoir des coûts, des sacrifices à faire, des choix douloureux, et je pense qu'il faut quelque part retrouver aussi la violence de ces négociations et se rendre compte de ce que cela implique et des choix douloureux que cela va impliquer.
Alors justement, puisque vous parlez de violence, je voulais qu'on parle d'équité et de cette notion de rapport de force, mais je rebondis sur votre notion de violence. Jusqu'à présent, si j'ai bien compris à propos de ces grandes conférences, on est sur une certaine forme de volontariat. Il n'y a pas de contrainte. Et vous, François Gemène, vous pensez que justement, de la contrainte, il en faudrait ?
Je pense, oui. Je pense qu'on ne pourra pas arriver à une solution sur la seule base du volontariat et d'un enthousiasme collectif, et que donc il va falloir mettre en place des mécanismes contraignants, éventuellement en se passant de la règle du consensus. Aujourd'hui, les négociations fonctionnent sur la règle du consensus, ce qui implique aussi généralement un très faible niveau d'ambition et un plus petit dénominateur commun. Je pense qu'il va falloir permettre aussi à des groupes de pays plus volontaristes de négocier des accords plus ambitieux, quitte à permettre à certains de raccrocher leur wagon par la suite, lorsqu'ils y seront prêts.
Stéphane, écoute.
Oui, je pense qu'il faut bien s'entendre sur ce que veut dire contrainte dans un contexte de négociation internationale. Le protocole de Kyoto, qui est aujourd'hui beaucoup décrié, a été un protocole contraignant.
Signé en 97 et entériné en 2005.
Ce protocole-là, qui jusqu'à maintenant est le seul traité international qui prévoit des réductions d'émissions des pays développés, était donc un traité contraignant avec des mécanismes de sanctions au cas où des pays ne le respecteraient pas. On voit très bien que ce protocole non seulement n'a pas atteint ce qu'il prévoyait, mais en plus il y a des pays qui se sont désolidarisés du protocole, je pense au Canada, et aucune sanction n'a été prise. Et on peut regarder d'autres négociations internationales. Quand on regarde dans le seul régime aujourd'hui où des sanctions, c'est pas le seul, pardon, un de ceux où des sanctions existent, c'est le commerce international, l'OMC. Là, vous avez un tribunal d'arbitrage où des pays imposent des sanctions et vont à ce tribunal pour assigner d'autres pays pour des violations de la concurrence. Donc, ce qu'on se rend compte quand on regarde les négociations internationales, c'est que contraignant veut dire que les pays sont aussi prêts à finalement à condamner des pays qui ne respecteraient pas leurs engagements et à risquer, au fait, et c'est tout à fait la violence dont parlait François Jamène, à risquer des clashs violents sur la scène internationale. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que pour le climat, les pays ne sont pas prêts à le faire. Et c'est ça ce qui doit changer. Ce n'est pas forcément la forme de l'accord contraignant, pas contraignant, puisque cette forme de l'accord, elle ne sera efficace que si les pays sont prêts à signer les pays qui ne le respecteraient pas.
Oui. Et effectivement, ce que vous dites depuis le début de l'émission, c'est que il y a cette notion d'accessoire par rapport au climat dans les négociations. Rapidement, quelques mots sur deux choses. Les climato-sceptiques, mais on y reviendra en fin d'émission. Bastien Alex, la question du changement climatique et de la sécurité internationale. Depuis le milieu des années 2000, les liens entre changement climatique et sécurité internationale font l'objet de nombreux rapports. Quels sont les risques pour la sécurité internationale?
Alors, il y a effectivement des recherches qui sont menées sur le lien entre changement climatique et sécurité, sécurité internationale, nationale, évidemment. Il y a des travaux sur ce lien. Après, l'établissement d'un lien direct entre changement climatique et insécurité, là, est plus délicat à établir avec certitude. Mais il est vrai qu'on travaille sur plusieurs pistes. Effectivement, des conflits ou des tensions liées au changement climatique peuvent venir des migrations, que François connaît bien, la question des migrations, donc déplacement de population lié à un aléa climatique important ou à des dégradations progressives de l'environnement qui ne permettent plus aux populations d'habiter ces territoires. Donc ça peut être un premier facteur de déstabilisation. Autre facteur de conflit potentiel, c'est la course aux ressources, notamment en Arctique, donc les nouveaux Eldorado qui deviennent accessibles par les conséquences du changement climatique. Il y a aussi certains effets du changement climatique qui peuvent pousser des pays à investir d'autres zones. On prend l'exemple tout simple, la Chine. La Chine dépend aussi en partie de ses barrages pour son hydroélectricité. Si le débit de ses fleuves devait se réduire du fait des fontes des glaciers, est-ce que la Chine ne serait pas plus intéressée à exploiter, par exemple, des ressources énergétiques qui se trouvent en mer de Chine, quand on connaît la situation de la mer de Chine? Voilà, c'est des questions qu'il faut avoir en tête à un horizon assez proche. Et enfin, il y a la question des, peut-être, mauvais choix d'adaptation, dans le sens où, effectivement, l'adaptation, c'est aussi des questions émergentes comme celle de la géo-ingénierie, qui est donc apporter une solution technologique au changement climatique, qui peut ouvrir des potentialités énormes en termes de marché. Est-ce que si tout le monde commence à essayer d'utiliser et développer des technologies pour éviter finalement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et conserver donc son modèle de production basé sur la consommation de ressources fossiles, est-ce que cela aussi ne va pas avoir des impacts sur le climat, donc sur des catastrophes naturelles qui augmenteraient et créer des tensions entre les États? On prend l'exemple de l'Inde et du Bangladesh, qui sont deux pays frontaliers mais qui n'ont pas du tout la même position dans les négociations, alors qu'ils sont exposés quand même quasiment au même risque. Donc il y a un lien, il est vrai, on y travaille, mais aujourd'hui on préfère parler moi j'utilise plutôt l'expression américaine de multiplicateur de menaces. Le climat peut arriver sur une situation et la faire basculer, mais n'est jamais le premier point de déclenchement d'un conflit.
En un mot, pour terminer cette émission, la question des climato-sceptiques, François Jemaine, ils ont totalement disparu aujourd'hui?
Je ne dirais pas totalement disparu. Disons que leur influence s'est considérablement amoindrie par rapport à l'influence qu'ils ont pu avoir autour de 2009 ou 2010. Et c'est sûr qu'ils sont aujourd'hui très marginalisés dans la communauté scientifique. Mais je dirais que leur influence, par contre, se prolonge dans l'opinion publique et qu'ils ont réussi à instiller le doute dans une partie de l'opinion publique. Selon les sondages d'opinion, entre un quart et un tiers des électeurs sont les pays se déclarent pas tout à fait sûrs, est-ce que les scientifiques sont vraiment d'accord, etc. Et donc ce doute est un frein considérable à l'action contre le changement climatique, puisque beaucoup des pays qui doivent agir sont des démocraties, c'est-à-dire des pays qui doivent aussi tenir compte de l'avis de leur population. Et souvent, la population a dit, finalement, on n'est pas trop sûr qu'il faille vraiment agir.
Ils ont contribué à la lenteur dans la prise de conscience. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. François Jemaine, chercheur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po, à l'Université de Liège en Belgique et à Princeton aux États-Unis, auteur de Géopolitique du changement climatique, paru aux éditions Armand Collin. Stéphane Aycout, politiste et sociologue des sciences, chercheur à l'Université Paris-Est et co-auteur avec Amida de Gouverner le climat, 20 ans de négociations climatiques aux presses de Sciences Po, et Bastien Alex, chercheur à l'IRIS, directeur de l'Observatoire géopolitique de la durabilité. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte.